Vous écoutez
RMC.
Un tout premier journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Guérilla rurale hier à Sainte-Soline contre le projet de méga bassine. 5 personnes en urgence absolue ce matin. La réforme des retraites et sa contestation qui ne faiblit pas, de nouveaux rassemblements encore hier. Et puis les sports avec du rugby. Le Stade Rochelet qui a frappé fort hier à Bordeaux. Victoire 36-6 sur l'UBB.
Et à 6h20, votre coup de main conso. RMC vous prépare un déjeuner 100% petit budget et planète compatible. On va se régaler.
La matinale week-end.
Le bilan est donc lourd ce matin après la manifestation contre le projet de méga bassine à Sainte-Soline.
Le parquet de Niort dans les Deux-Sèvres fait état de dizaines de blessés côté manifestants et forces de l'ordre. 5 sont d'ailleurs en urgence absolue, dont 2 gendarmes. La première ministre Elisabeth Borne dénonce un déferlement de violence intolérable. Gérald Darmanin lui parle d'action inexcusable de l'extrême gauche. Les manifestants, eux, ils pointent du doigt une violence du côté des forces de l'ordre. Reportage Marine Gauthier.
Marjac. C'est bien, on ne va pas faire des gros embouteillages sur la route pour permettre l'évacuation des blessés.
Des pieds boueux, des traits tirés, une foule nerveuse s'agite autour des tentes d'infirmerie. Pourtant, beaucoup de manifestants évoquent le calme du début de rassemblement, puis le choc.
Et on est content de rentrer en un seul morceau.
Valentin est venu du sud de la France pour s'opposer au projet de bassine.
Et, je ne m'attendais pas à 100 partout, toutes les 2 minutes entendre médic. Je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Une journée qui est particulièrement traumatisante et violente.
Mais Mélanie est assise sur un banc, le regard dans le vide.
Moi, ce que je déplore, c'est le fait d'interdire la manifestation, fait monter une escalade de part et d'autre. On termine une journée en étant désespéré, pas écouté.
La gendarmerie assure que les assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov. Elle dit avoir riposté avec 4000 grenades et des lanceurs de balles de défense.
On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide.
S'insurge Adeline du collectif Bassine. Non merci.
Ça ne décourage pas, je pense que ça fait monter encore plus la colère.
Tant que les méga-bassines ne sont pas abandonnées, conclut-elle, on sera là pour continuer.
Le reportage de Marion Gauthier avec Léna Marjac pour RMC.
De violence, il en est aussi question à Paris, puisque le parquet ouvre une enquête judiciaire contre la brave M.
Enquête après la diffusion par le média en ligne Loopsider d'un enregistrement où l'on entend des policiers de cette brigade motorisée menacer, insulter des manifestants lors de rassemblements contre la réforme des retraites. Enquête également à Bordeaux qui se poursuit après le début d'incendie de la mairie. Un incendiaire a été mis en examen hier. Et à 2 jours d'une nouvelle journée de mobilisation, des manifestations non autorisées ont encore eu lieu hier soir dans plusieurs villes du pays. Et des manifestations également autorisées, celles-ci, se sont tenues dans le calme un peu plus tôt, comme à Orléans où Anna, enseignante, faisait partie du cortège.
J'ai déjà fait d'autres grèves dans ma vie en tant qu'enseignante et généralement, au bout d'un moment, je les compte parce que je me dis quand même que ça va se sentir. Mais là, il y a une telle arrogance, un tel mépris depuis le début de la part du gouvernement que j'en suis à plus compter, à me dire que je continuerai à les faire systématiquement. Donc cette réforme, c'est vraiment la goutte d'eau en fait. Mais quelque part, c'est bien qu'elle soit là, cette goutte d'eau, parce qu'elle nous a fait relever la tête et retrouver une dignité. Je crois que j'ai jamais vu autant de manifestations qui, les unes après les autres, restent persuadées qu'on peut gagner.
Et ces manifestations, précisément, elles inquiètent les commerçants du pays. Déjà parce qu'ils craignent pour leurs locaux en cas de débordement, mais aussi parce que les centres-villes, ils se vident, comme à Nantes, où certaines structures ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 15 à 30% par rapport aux années précédentes. Pierre Bourgès.
Dès qu'il y a trop de gaz lacrymogène dans le centre de Nantes, Dominique décide de baisser le rideau de son magasin. Tant pis pour les clients.
Depuis le début du mois, je suis à moins 70% de mon chiffre d'affaires par rapport à N-1.
Pour lui, un problème principal, l'accès au centre-ville.
Le centre-ville de Nantes est accessible par les transports en commun qui sont, par mesure de précaution, systématiquement fermés. Donc forcément, les gens ne viennent pas dans le centre-ville.
Les restaurants sur le cortège perdent entre 50 et 90% de chiffre d'affaires un jour de manifestation, selon le GNI, un syndicat de la profession. Mais c'est aussi le cas pour d'autres magasins, comme celui d'Arnaud.
Depuis 15 jours, c'est, on va dire, 15 000 balles de chiffre d'affaires en moins. On fait comment? On me les donne? L'État va me dédommager?
Alors il lance une initiative, une affiche sur les vitrines pour inciter à soutenir les commerçants.
Centre-ville cassé, centre-ville isolé, hashtag laissez-nous travailler, arrêtez de tout casser, arrêtez de nous prendre en otage, vive Nantes quoi.
Je comprends pas qu'on manifeste encore quoi, stop quoi.
Selon lui, l'initiative est soutenue par la plupart des commerçants du centre-ville.
Et sur le plan politique, Elisabeth Borne a tenté hier de justifier une nouvelle fois son texte controversé, affirmant que le gouvernement avait fait ce que les Français attendaient de nous. Fin de citation. Déclaration faite hier lors du congrès du parti Horizon d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui enjoint l'exécutif à écouter les manifestants.
Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous. Voilà ce que dit Elisabeth Borne ce matin. Pas sûr que ça apaise les tensions. 32-16, si vous souhaitez réagir. Allez, 6h05, Stéphane, l'actualité ce matin est aussi internationale puisque Vladimir Poutine annonce le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie.
Des armes tactiques de ce type dans un pays frontalier du nord de l'Ukraine en raison, d'après le président russe, que les États-Unis ont eux-mêmes des armes de ce type, un nucléaire, sur le territoire européen. Analyse de Jean-Marie Collin, spécialiste du nucléaire militaire.
Il n'y a aucune utilité militaire. Enfin, je veux dire, la Russie peut avoir ses armes nucléaires sur son territoire et faire décoller ses avions si elle devait les utiliser à partir de son territoire. La Biélorussie est un État qui a des frontières avec la Russie. Les avions peuvent réaliser quelques centaines ou milliers de kilomètres sans aucun problème. Donc, on est sur un geste pur politique, mais un geste politique qui est dangereux puisque ça engage des conséquences négatives sur l'architecture internationale de sécurité. Au sens large.
À noter aussi ce matin, 25 morts au Mississippi, aux États-Unis après le passage de tornades la nuit dernière. Et puis un gendarme du GIGN tué par balle hier en Guyane. Il participait à une opération de lutte contre le trafic d'or. Emmanuel Macron fait part de sa grande émotion. Il salue le courage et la mémoire de ce sous-officier de 35 ans.
6h06 sur RMC, les sports avec ce gros coup hier de La Rochelle en 21e journée de top 14.
Les Rochelais ont surclassé Bordeaux, score final 36-6, à l'extérieur en plus dans un Matmut Atlantique à guichet fermé. Un stade Rochelais qui a tout bonnement impressionné hier Nicolas Paolorsi.
Oui, même l'entraîneur Rochelais Romain Carmignani était impressionné par ses hommes.
La performance collective de l'équipe ce soir est monstrueuse.
La Rochelle a frappé très fort en prenant le bonus offensif chez un rival pour le titre et dans un stade de 42 000 places acquis à la cause de l'UBB. Le centre Jules Favre.
C'est pas un exploit, on doit notre victoire aussi à une prestation aboutie. Je pense qu'on s'est pas mis beaucoup plus de pression que ça et puis voilà, on avait quand même les 10 000 Rochelais qui étaient derrière nous dans le stade.
Une victoire impressionnante qui confirme les ambitions rochelaises. Pierre Bourgarit, talonneur.
Si on avait l'intention et l'envie de vouloir être dans le top 2, ce qui est notre intention cette saison, ça serait bien de passer par une victoire ici. On va profiter, savourer, mais après on va redescendre un peu sur terre aussi demain.
À Bordeaux, La Rochelle a lancé son sprint final de la meilleure des manières et envoyé un signal très fort à la concurrence.
Hier, Toulouse s'est incliné à Castres. Toulon l'a emporté à Lyon. Ce soir, derby francilien, rendez-vous 21h05. Le Stade français accueille le Racing 92.
Et puis en ce dimanche, top départ de la saison de MotoGP.
Premier Grand Prix de la saison au Portugal. En pole position, l'Espagnol Marc Marquez. Une saison avec deux Français en lice, hein, Johan Zarco, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, deuxième l'an passé, plus que motivé cette année.
Sincèrement, l'année dernière, j'avais pas vraiment une pression spéciale. En tout cas, je l'ai pas ressenti. À la fin, surtout, ce qui était, on va dire, chiant, c'était de voir qu'on avait tellement de difficultés sur la moto et voir autant de Ducati devant. C'était ça, mentalement, qui était difficile. Ça fait partie du job, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, j'ai qu'une chose en tête, c'est de gagner.
Fabio Quartararo, joint par Valentin Jamin pour RMC.
C'était le journal de Stéphane Geneste. On vous retrouve dans une heure, Stéphane. On est ravis de vous réveiller sur RMC en ce dimanche matin. Vous êtes ici chez vous et vous nous appelez tout de suite au 32-16.
Mais vous aussi Marguerite, vous êtes ici chez vous. Je rappelle quand même cette principale information du week-end pour ceux qui n'étaient pas en notre compagnie hier. Marguerite Dumont fait désormais partie de la famille de la matinale week-end sur
avec
RMC.
Avec beaucoup de plaisir.
6h,
même très tôt le matin.
Même très tôt le matin. C'est vrai que ça pique là. Il est 6h08. On va ouvrir la boutique avec vous comme d'habitude, mais le rideau grince peut-être un peu plus que d'habitude. Et oui, 6h08, mais 5h08 encore dans les têtes. Vous avez dormi une heure de moins, vous avez travaillé une heure de moins cette nuit. Comment ça se passe de bon matin? Tiens, Raphaël et Clément sont déjà avec nous. On va démarrer à Mâcon, en Saône-et-Loire. Bonjour Raphaël.
Salut toute l'équipe et bienvenue à Marguerite.
Déjà réveillé ce matin, Raphaël?
Ah bah déjà, mais surtout exprès pour vous.
C'est vrai?
Bah oui, parce qu'hier, j'entendais qu'il y a quelqu'un qui disait que ce serait pas facile demain matin, tout ça. Donc, j'ai dit, bah, allez, je vais me mettre avec eux et je me suis levé exprès.
Non, Raphaël. Vous lancez des défis comme ça le dimanche matin, vous?
Ah, bah, en même temps, c'est que je passe tellement de temps avec RMC que je peux bien faire ça pour.
Vous nous écoutez où? Dans la voiture, dans votre camion? Parce que vous êtes conducteur convoi exceptionnel, c'est ça?
C'est ça, ouais. Donc, je vous mets un petit peu pas très fort parce qu'on travaille beaucoup avec la CB.
Et oui.
Et puis, mais je vous écoute quand même. Quoi. Voilà.
Et là, sur la route du boulot hein, ce dimanche?
Non, pour une fois, non, c'est super, non.
Tranquille, repos.
Un vrai jour de repos et tout, et je me suis vraiment levé pour vous.
Ah bah ça, c'est sympa, Raphaël. Donc, ouais. À l'écoute, j'imagine le petit café, le croissant du dimanche.
Ah, le croissant, non, sinon il faut l'éliminer au sport, mais le café, ouais.
Bon, d'accord, Raphaël. Bah écoutez, comme vous voulez, café noir, sec, pour rester en forme. Mais je vous propose quand même un croissant, vous voulez?
Allez, je suis preneur.
Eh bah, Clément va vous l'offrir. Bonjour, Clément.
Bonjour, toute l'équipe.
Patron d'une boulangerie en Essonne, Clément.
Exactement, à Voilan.
Comment vous faites ce matin? Parce que il a fallu que vous bossiez une heure de moins. Vous avez anticipé?
Bah, ça n'a rien changé du tout. On est arrivé à 4 heures comme d'habitude.
D'accord.
Louis et moi, les deux boulangers.
4 heures?
Oui.
C'est un peu tard pour un boulanger.
Bah, on est rapide.
C'est vrai? Vous préparez tout la veille?
Enfin, on prépare tout la veille. On fait pousser le matin.
Ok. Et là, ce matin, est-ce que les clients sont déjà là? Est-ce que vous
changez? On ouvre la boutique à 7 heures. Là, on va commencer à mettre les croissants et les baguettes au four.
Ouais.
Et après, on attend les clients.
Ok, Clément. Écoutez, un petit croissant, c'est ce que voulait Raphaël. Vous lui en offrez un?
Il vient avec plaisir.
Ok. Mais ça va faire un peu long, là. Ça va faire un peu long.
Un peu long et un peu cher en carburant. Ouais.
C'est clair, Raphaël. Il va coûter cher, le croissant. Merci d'être là sur RMC, les gars. Raphaël, avec Clément, merci de ce petit coucou. Vous nous rejoignez, bien sûr, tout au long de la matinée, le 32-16, vos messages sur l'appli RMC, pour un croissant, pour un café ou pour l'actualité. Bon dimanche.
Merci, bon dimanche.
Salut, Clément. Salut, Raphaël. Il est 6h11. Restez bien avec nous. Dans un instant, toute l'équipe est là.
L'équipe est là pour vous accompagner ce dimanche matin. Et puis, 6h30, pardon, on va passer à table. Oui, dans votre coup de main conso, on passera aussi au détecteur de mensonges dans C'est déjà demain. Et on vous racontera les meilleures histoires du week-end dénichées dans la presse. À tout de suite sur RMC.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Soyez les bienvenus, c'est la matinale week-end sur RMC, il est 6h12.
Et dans 5 minutes, on va retrouver Anthony Morel, c'est déjà demain, ses innovations. Anthony nous promet de nous faire passer au détecteur de mensonges ce matin.
Promis, ça n'a pas trop bipé, mais d'abord on ouvre la presse.
Les histoires du week-end.
Tout le monde est autour de la table pour partager avec vous nos meilleures histoires du week-end. Margot Bourdin nous a rejoint, salut Margot. Stéphane Geneste est toujours là et Peggy oui. Broche également. Merci d'être avec nous. On va commencer avec toi, Peggy, avec cette réclamation de Big Flo et Oli qui sont privés de concert. Qu'est-ce qui s'est passé?
Rendez-nous à Amiens, voilà ce qu'ils disent. Voilà l'appel lancé par les rappeurs toulousains Big Flo et Oli, alors qu'ils sont actuellement membres du jury de The Voice sur TF1. Pour ceux qui regardent, ils ont lancé cet appel sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que en fait, ils expliquent qu'ils doivent se produire au Zénith d'Amiens dimanche 28 mai à 20h, mais ils se sont rendus compte que Starmania a mis en vente des places pour un spectacle le même jour à 15h.
Mais alors, comment c'est possible?
Starmania, je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai mais vu c'est Starmania, c'est un carton, mais c'est surtout, c'est une dinguerie pour l'organisation, c'est un truc de fou, c'est énorme.
Et Starmania, c'est plus fort que Big Flo et Oli?
Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'après il faut tout démonter, tout remonter.
En 2h30?
Et c'est pas possible en fait, voilà, il est là le problème. Et ils disent, oui, ils nous ont fait un braquage, ils nous volent notre Zénith, quasi complet en plus, dit Oli. Ils ont déjà vendu 5500 en place et ils ont lancé, j'adore le hashtag, rendez-nous Amiens. Ce qui est fou, c'est que les places de Starmania n'apparaissent pas en plus sur le site du Zénith d'Amiens, mais ils sont sur le site officiel de la production du spectacle de Starmania. Le Zénith d'Amiens n'a pas souhaité commenter, mais l'Académie d'Amiens a posté sur Twitter avec humour: à défaut d'avoir un Zénith à vous proposer, on peut vous inviter dans nos établissements scolaires. Là, ils vont faire un carton, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que tout ça va se régler, mais c'est quand même improbable.
Big Flo et Oli versus Starmania.
C'est le clash du jour, non? On connaissait Booba et Caris.
Starmania, Big Flo et Oli.
Ça promet. Margot Bourdin, qui est le favori dans la fratrie? Il paraît que les mots de passe, nos mots de passe trahissent surtout les parents.
Oui, alors si vous avez des frères ou des sœurs, Mathieu, Marguerite, je suis sûre que vous vous êtes déjà posé une fois la question. Qui est le ou la préférée des parents? Qui est le number one?
Moi, je me suis jamais posé la question parce que je suis le number one.
Ah bah voilà.
Je suis l'aîné. Donc et forcément, il bah, y a un effet logique.
Ça veut rien dire.
Mais non, un effet logique.
Moi, je suis la dernière, Mathieu. Et je bah, pense que je suis la number one.
Non, je suis pas d'accord.
Bon, alors, pour trancher, Marguerite, Mathieu, vous allez enfin avoir la réponse grâce à un test très simple qui est devenu très populaire sur TikTok, le réseau social préféré des plus jeunes. C'est Alex Griswold, un Américain, qui l'a révélé en publiant une vidéo. Il explique le principe du test très simple. Il suffit de demander le mot de passe de votre père ou de votre mère pour vous connecter à Netflix. Et s'il répond votre prénom, vous êtes le préféré ou la préférée.
Ah bon ?
S'il répond en revanche le prénom de votre frère ou de votre sœur, mauvaise nouvelle pour vous. Je suis au regret de vous apprendre que vous n'êtes pas le ou la préférée de la fratrie. Le test a même donné la naissance à une expression l'enfant mot de passe. Traduction l'enfant dont le parent utilise le prénom comme mot de passe en ligne qui sous-entend qu'il est donc le numéro 1. De nombreux internautes ont donc fait le test et ont publié ensuite des vidéos très drôle, je suis fille unique et je ne suis même pas l'enfant mot de passe.
C'est le chat. C'est la bonne solution.
Rien ne fait plus mal que de se faire remplacer par le prénom de son chien.
Ah bah alors, exactement, oui. Et ça, c'était sûr. Mais ça m'intéresse beaucoup, tiens. Qui est dans quelle place dans la famille? Est-ce qu'il y a une bonne place, une mauvaise place? L'aîné? Non, mais c'est vrai.
Moi, ça me passionne ce sujet. Place.
Bah, la place du milieu, c'est toujours compliqué. Hein.
C'est vrai.
C'est pas mon cas, mais j'observe.
Et les deux 16 et vos messages sur l'appli RMC ce matin, vous vous situez où dans la fratrie? Est-ce que vous aimez votre place ou pas? On va en parler avec
si
vous.
Si vous êtes parent, est-ce que vous avez un favori?
Oui, exactement.
Donnez-nous votre mot de passe directement.
Je préfère tel ou tel enfant. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis on termine avec Stéphane.
Oui, notre mangeur de rillettes.
Oui, parce que je vous emmène dans la Sarthe. Et si je vous dis le mot, vous pensez évidemment
rillettes.
Eh oui, depuis la semaine dernière, c'est le printemps de la rillette. Ça se termine, hélas, aujourd'hui, avec un objectif. Aujourd'hui, c'est de battre un record du monde. La plus grande marmite de rillettes. Objectif 1072 kilos, plus d'une tonne de rillettes.
C'est dur. Là, le dimanche
le rêve, oh non, le rêve. Les Monceaux qui n'en sont pas à leur coup d'essai l'année dernière, ils ont décroché le record du plus long sandwich de rillettes, plus de 100 mètres entre temps, qui était justement record ravi par les Mayennais. En revanche, donc, aujourd'hui, de 8h30 à 13h au marché des Jacobins, c'est le Maine-Livre qui nous dit ça. Une marmite d'une tonne, ça fait 4000 pots de rillettes. Oh voilà l'objectif pour la journée en 5h, faire 4000 pots de rillettes. C'est festif, c'est folklore, c'est la promotion du savoir-faire, du terroir français. Mais c'est aussi pour la bonne cause puisque ces pots seront vendus pour une association qui vient en aide à des personnes dans le besoin. Et puis 1000 pots qui seront remis à l'épicerie solidaire et solidaire, oui, étudiante du Mans. Les rillettes qui ne sont pas que des cochonneries, c'est aussi un vecteur de solidarité.
Ah, la petite musique qui va bien.
4000 pots de rillettes,
c'est énorme.
Mais ça va être vendu en 35 minutes au moins.
Je vais faire un petit aller-retour, effectivement. Je vais les aider.
Vous en ramenez au moins 10
oui, voilà,
ouais. Pour le week-end prochain.
Et manger dans la foulée. Vous savez que dans la Sarthe, on trempe sa tartine de rillettes dans le café au lait.
Et c'est très très bon.
Et c'est ça le menu du petit
déjeuner. Oui, c'est bon. Moi, je suis pas preneuse de la recette.
Bah, testez, vous verrez.
C'est approuvé.
De notre côté.
Très bien, les gars.
Allez, merci beaucoup à toutes les trois, toute la bande, pour vous réveiller autour de la table de la matinale week-end. 6h18, c'est l'heure de retrouver Anthony Morel.
C'est la matinale week-end. C'est déjà demain.
Avec le meilleur de la tech tous les dimanches, Anthony Morel.
Bonjour Anthony.
Bonjour.
On connaît les détecteurs de mensonges, grand classique des séries policières américaines.
Et on s'est tous demandé un jour, mais comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut mentir aux détecteurs de mensonges? Là, vous avez la toute dernière machine en date qui lit en nous comme dans un livre ouvert.
Ouais, ces inventeurs sont tellement sûrs d'eux qu'ils proposent de la tester sur des hommes politiques. Voilà,
donc, ah oui, d'accord.
Si vous avez un invité, là, on pourrait éventuellement imaginer des scénarios. C'est vrai que ça pourrait pimenter les débats. Ils affirment avoir réinventé le fameux, alors ce qu'on appelait le polygraphe, donc détecteur de mensonges, qui est souvent décrié, c'est vrai, pour son manque de précision. Il y a des méthodes pour tricher, on ne va pas les donner, mais en tout cas, ça existe. Et ce qu'a mis au point cette start-up qui s'appelle Converos, c'est un détecteur de mensonges, mais qui va aller chercher la vérité dans nos yeux. Ça, on dit tout souvent que c'est le miroir de l'âme qui nous trahissent, ils ne peuvent pas mentir.
Donc en regardant les yeux d'Emmanuel Macron, on va pouvoir savoir si oui ou non la retraite à 64 ans, est-ce c'est réellement nécessaire.
C'est exactement ça. En fait, on vous met devant un ordinateur équipé d'une caméra, il y a des questions qui s'affichent à l'écran. Est-ce que vous vous appelez Mathieu Rouault? Oui.
Oui.
Est-ce que vous avez tué votre belle-mère?
Pas encore.
Non, a priori, j'espère, pour l'instant. Et pour chaque réponse, on va aller chercher donc des choses imperceptibles pour l'œil humain dans vos yeux. La machine mesure 60 mouvements involontaires des yeux chaque seconde, la dilatation de la pupille, les micro-mouvements des paupières, etc., etc. Des milliers de points d'analyse. Et en fait, on part du principe que d'un point de vue de l'expression corporelle, eh bien, il est beaucoup plus difficile de mentir que de dire la vérité et que le mensonge se manifeste toujours de façon physique, même si c'est presque imperceptible. Cette entreprise se vante d'un taux d'exactitude de 86% et elle est déjà testée, cette technologie, par l'administration américaine, les douanes notamment.
Tu es en train de regarder là, les yeux dans les yeux.
Et alors ?
Est-ce qu'il est en train de nous mentir ?
Est-ce que je raconte n'importe quoi ? Est-ce que c'est faux en fait ce que je raconte ?
Non, vous avez l'air tellement sûr de vous, Anthony.
Alors ça va.
Forcément, ces outils intéressent beaucoup la justice. On pourrait détecter qui dit la vérité et qui ment pendant un procès.
Bien sûr. Alors il y a des ingénieurs de l'université du Michigan aux États-Unis qui ont mis au point un logiciel auquel on fait regarder des vidéos des vrais procès qui ont lieu dans les tribunaux américains. Et donc ils décortiquent les gestes, les mouvements, le comportement, la façon dont les accusés et les témoins bougent les mains, les traits du visage, les petites grimaces, etc. Les béquilles de langage également. Et en fait, à partir de ça, ce que les amateurs de poker appellent les tells d'ailleurs, hein, les petits signes qui trahissent. Exactement, poker face. Et l'ordinateur, eh bien, sur les résultats, il a su détecter si l'accusé disait la vérité ou mentait dans 75% des cas.
Ah oui, quand même.
Ouais, contre 50% pour des humains qu'on a soumis aux mêmes images. Et ce n'est qu'un début.
Oui,
donc là encore, on va avoir un vrai...
Voir ça aussi dans nos aéroports aux frontières de l'Union européenne.
Ouais, alors c'est des expérimentations qui ont été lancées en 2018 pour détecter si un voyageur ment sur le motif de son voyage ou sur le contenu de ses bagages. Donc on arrive à l'aéroport, on est mis devant un ordinateur équipé d'une webcam. Sur l'écran, il y a un garde-frontière virtuel qui vous pose des questions. État civil, pourquoi vous faites ce voyage? Qu'est-ce qu'il y a dans votre valise?
Est-ce que vous venez pour commettre un attentat terroriste?
Et en fait,
on demande ça aux États-Unis.
Absolument. Et là, en fait, le truc, c'est que la caméra va vous observer et sur les mêmes méthodes que je viens de vous expliquer, eh bien, on va essayer de détecter si vous dites la vérité ou si vous mentez.
Moi, vous me faites flipper tous les jours un peu plus, Anthony Morel. Le monde que vous nous présentez, franchement, merci. C'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 6h22.
À suivre dans la matinale week-end.
Je vous prépare un déjeuner du dimanche. Ah. Un bon déjeuner, petit budget et planète compatible.
Sans rillettes.
Sans rillettes, évidemment.
Votre coup de main conso, Marguerite. Dans une minute, on va passer à table. À tout de suite.
RMC, la matinale week-end.
Excellent réveil, bon dimanche à vous. 6h24, réglez bien vos montres, 6h24. Oui, Stéphane Jeunesse nous a parlé de rillettes, je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment ouvert l'appétit. Allez, à table.
RMC, le coup de main conso.
C'est votre nouveau rendez-vous avec Marguerite Dumont, le coup de main conso pour défendre notre pouvoir d'achat. Pourquoi à table, Marguerite? Parce que le GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, a rendu son 6e rapport cette semaine, et un mot d'ordre, mangez mieux pour sauver la planète. On va se demander, Marguerite, ce matin, si c'est possible, pour pas cher.
Et la bonne nouvelle, c'est que je suis venue avec des solutions concrètes. RMC, avec l'aide d'Adrien Henriet de la Société d'éducation alimentaire. On mange quoi vous a concocté un déjeuner du dimanche 100% nourrissant, planète et petit budget compatible.
Concrètement, un menu majoritairement végétal, sans pesticides, varié, saisonnier, local, circuit court.
Un quart des émissions en France sont dues à l'alimentation. Circuit court, c'est donc le mot à retenir pour limiter la pollution, les frais liés au transport et aux intermédiaires. C'est important de l'avoir en tête.
Alors, qu'est-ce qu'on mange? Ce qu'il y a proche de chez nous, Marguerite?
Bah, c'est tentant de prendre le petit plat de lasagne à 2,99€. Hop, on le met dans le four, oui. C'est prêt. Oui, mais c'est industriel, trop de viande qui vient de loin. Voici l'alternative pour moins cher.
On peut imaginer un curry à base de riz complet, de pois chiches, de carottes et une sauce à base de crème de soja, parce qu'on en produit du bio en France maintenant, de thym séché, de citron et des épices. Avec tout ça, on a une part par personne à 78 centimes, contrairement à 75 centimes pour la lasagne industrielle.
Oui, c'est pas mal quand même.
Mais gagnons.
Si on veut mettre un peu de verdure dans tout ça,
eh ben on peut faire très simple.
Une belle salade verte avec une botte d'herbe de saison, un filet d'huile d'olive, un tour de poivre, un tour de sel, rien de plus.
Franchement, ça me donne autant envie que la rillette. Pour le dessert, Marguerite?
Exit la crème dessert à 80 centimes les 4. Mauvaise pour la santé, on se fait plaisir sans se ruiner ce matin.
La meilleure option reste quand même un fruit de saison, parce qu'il y a ce côté sucré, au final les enfants, les adultes aussi adorent. Ou sinon, un yaourt fermier avec un petit peu de miel ou de confiture.
Miam miam, le coût total du déjeuner, entre 2,38€ et 2,18€ par personne, selon les options, soit à peu près 15 centimes plus cher qu'un repas industriel, j'ai calculé. Mais on investit dans sa santé, son plaisir et petit bonus, on fait des économies à moyen et long terme.
Comme on mange des aliments qui sont pleins de nutriments, bah on a une sensation de satiété qui est plus prolongée et on est moins tenté aussi de snacker entre les repas, c'est absolument tout bénef.
Maintenant, il faut trouver les bons magasins. Si vous habitez en milieu rural, pas de difficulté. On est près des producteurs, alors on y va. En milieu urbain, il y a de plus en plus de magasins spécialisés. La ruche qui dit oui. Locavore, et puis les applis anti-gaspi aussi. Et puis toutes les grandes surfaces ont maintenant leurs rayons locaux. À vous de choisir, et puis à vos fourneaux.
Et vous nous dites, bien sûr, au 32-16, vos meilleurs menus. Et si vous avez pris l'habitude, c'est vrai désormais, d'aller au plus près chez vos producteurs locaux.
Et franchement, c'est moins cher.
La vente directe à la ferme. Vous êtes d'ailleurs peut-être agriculteur. Témoignez ce matin de plus en plus de ventes en direct chez vous. Le 32-16 est bien sûr ouvert. Allez, on est ensemble jusqu'à 9h. Le journal de 6h30 dans un instant. L'émotion après la mort d'un gendarme en Guyane lors d'une opération anti-orpaillage.
Et juste après, récit d'une journée sous haute tension à Sainte-Soline. 3 manifestants et 2 gendarmes toujours en urgence absolue ce matin. Le reportage de la rédaction sur place dans les Deux-Sèvres et vos réactions toujours ce matin au 32-16. La violence éclipse-t-elle le message des manifestants? On vous attend.
A tout de suite sur RMC.
C'est l'heure d'un tout nouveau journal avec vous, Maxime Gras, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Un militaire tué en Guyane alors qu'il effectue une mission de lutte contre l'orpaillage illégal. Manifestation sauvage hier un peu partout dans l'Hexagone pour protester contre la réforme des retraites. Nous étions à Orléans, La Rochelle grignote sur Toulouse au sommet du top 14. Les Maritimes se sont imposés à Bordeaux et reviennent à 6 points du leader.
Juste après le journal, on prendra la direction de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Bilan très lourd, 5 personnes en urgence absolue ce matin.
Et puis à 6h50, le coup de main immo avec Marie-Cœur de Roi, votre rendez-vous immobilier sur RMC. En Guyane, un gendarme s'est fait tuer hier.
Membre de l'antenne du GIGN de Cayenne, le militaire était engagé dans une mission de lutte contre l'orpaillage illégal, une infiltration qui a dégénéré. Les précisions de Kevin Gasser.
Le militaire âgé de 35 ans, père de 2 enfants, a été tué par balle dans le parc amazonien de la Guyane sur le site de Dorlin, un des plus prisés par les chercheurs d'or clandestins. Il menait une opération d'infiltration accompagné de 2 autres gendarmes du GIGN, 4 militaires de l'armée et 1 infirmier. C'est au petit matin hier que le groupe a été pris à partie par une bande armée. Après des échanges de tirs, le militaire touché est décédé malgré les premiers secours prodigués par l'infirmier. La bande armée a été identifiée et est actuellement recherchée. Le parquet a ouvert une enquête. En 2012, sur le même site, 2 militaires avaient été tués et 2 gendarmes grièvement blessés lors d'une opération anti-orpaillage illégal.
D'après les entreprises minières guyanaises, 10 tonnes d'or seraient extraites illégalement du pays chaque année par des orpailleurs clandestins.
Nous sommes à 48 heures d'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue donc mardi. Des manifestations sauvages ont eu lieu hier un peu partout en France.
2000 personnes à Caen, environ 400 à Nice, Rennes ou Célestat. Ils étaient également quelques centaines réunis à Orléans à l'appel de l'intersyndicale. Des rassemblements le week-end où les salariés les plus précaires à Nahuo, ceux qui ne peuvent pas faire grève, se regroupent.
À 45 ans, Loïc, employé dans la logistique, se dit déjà cassé de partout. Alors pour lui, la retraite à 64 ans, c'est non. Mais en gagnant à peine plus que le SMIC, il n'a pas les moyens de faire grève.
Une journée perdue, ça devient très compliqué. J'ai quand même un crédit d'appart à payer.
Plus loin dans le cortège, François, préparateur de commandes, est lui aussi un habitué des défilés du week-end.
Un jour de grève, c'est pas possible.
Surtout avec l'inflation.
Quand on fait les courses, on est 6 à la maison, donc je vous laisse imaginer. On était à 600. Là, on dépasse les 1000 euros par mois. Rien que pour le budget nourriture.
Infirmière en psychiatrie à mi-temps, Sylvie l'avoue, impossible de répondre présente à tous les appels à la grève.
10 jours de grève, c'est un tiers du mois quand même. Les factures, elles diminuent pas. Hein. Donc, non, on peut pas.
Et c'est justement parce que la grève coûte cher que les syndicats craignent que le mouvement s'essouffle. D'où ce rassemblement organisé un week-end, explique Pascal Sudre, secrétaire de la CGT Loiret.
Celles et ceux qui ont fait peut-être une pause à la dernière mobilisation en semaine, qui puissent aussi revenir le samedi, parce qu'ils sont toujours plus que motivés, déterminés à poursuivre le mouvement.
Et dans le cortège, en effet, tous se disent prêts à défiler jusqu'au retrait de la réforme des retraites.
Et au milieu de ce cortège, à Nahuo, à Orléans.
Une violence intolérable venue de l'extrême gauche, ce sont les mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
Il dénonce les affrontements d'hier à Sainte-Soline où plusieurs milliers de personnes avaient convergé pour manifester contre les bassines. Mais des heurts ont opposé des militants radicaux aux forces de l'ordre. Malgré un retour au calme en soirée, le parquet de Niort déplore 35 blessés des deux côtés, dont 5 en urgence absolue. On sera en direct de Sainte-Soline avec notre envoyé spécial dans le journal de 7h.
RMC 6h33, le changement climatique et ses conséquences en France.
À Villeneuve-Loubet, sur la Côte d'Azur, la hausse du niveau de la mer entraîne une érosion du trait de côte de 40 cm chaque année. Face à ce littoral grignoté, la commune a décidé de ne pas renouveler les concessions des plages pour les 12 prochaines années. Cela ne changera rien pour les baigneurs. La surveillance et la sécurité de ces plages seront toujours assurées par la ville. En revanche, les commerces, eux, ne pourront plus exploiter ces plages, amenées tôt ou tard à disparaître, selon le maire de la commune, Lionel Lucas.
Ce littoral est attaqué depuis un certain nombre d'années. Et là, ces dernières années, on constate que le phénomène, bien sûr, s'aggrave. L'ampleur est assez visible de plusieurs centimètres par an. Tôt ou tard, la plage telle qu'elle est disparaîtra. Et donc, on ne pouvait pas laisser des plagistes avec une concession qui se réduirait au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pour ça que nous avons plutôt souhaité ne pas prendre une décision qui n'était pas responsable. Même les établissements eux-mêmes ne pourront rester à cet endroit.
À partir de 2024, les 5 établissements privés de cette zone devront en tout cas se tourner vers l'État à partir du 1er janvier s'ils veulent prolonger leur exploitation.
6h34 sur RMC, les sports et à la une, un week-end de derby en rugby qui tient toutes ses promesses, jusqu'à présent en tout cas.
Suspense et spectacles sont à l'honneur pour cette 21e journée de Top 14 avec en gros titre la balade Rochelaise à Bordeaux dans un duel de l'Ouest délocalisé pour l'occasion au Matmut Atlantique. Les champions d'Europe ont étouffé l'UBB, se payant même le luxe de prendre le point du bonus offensif, 36-6. C'est le score final. Plus que jamais dauphin de Toulouse, les Maritimes valident ainsi leurs ambitions. Le talonneur Pierre Bourgarit au micro de Nicolas Porti.
C'est une belle performance, on ne va pas se le cacher. On savait que, vu l'état actuel du classement avant le match, on savait que si on avait l'intention et l'envie de vouloir être dans le top 2, ce qui est notre intention cette saison, ça serait bien de passer par une victoire ici. Alors si on avait gagné 1-0, on aurait pu gagner 1-0, on aurait été tout aussi contents.
Alors 1-0, pourquoi pas, mais il faudra réinventer les règles du rugby quand même. Parmi les autres matchs de ce samedi, on notera la défaite du leader toulousain, battu 27-17 chez son voisin Castré. Ce soir, c'est un autre derby francilien, celui-là, qui va mettre aux prises le Stade français. Le Racing 92. Au match aller, Paris s'était imposé sur la pelouse des Racingmen 48-10. Ce souvenir des belles choses ne fait pas gagner, dit en substance Laurent Sempéré, entraîneur des avants du Stade français.
On est concentré sur nous, on a été concentré comme on a pu l'être depuis le début de la saison. C'est un match important, ça va être un match important pour les deux équipes. C'est le match aller ne suffit pas à dire qu'on a renversé la balance. Avant ça, ils nous avaient gagné 5 fois d'affilée. Donc quand il y a 5-1, on ne peut pas dire qu'il y a égalité.
Et côté Racing, ce soir, on sera privé des internationaux Finn Russell et Gaël Ficou, blessés, coup d'envoi à 21h05.
Et puis la Fédération Française de Tennis, secouée par une plainte.
Elle fait suite, cette plainte, aux révélations de RMC Sport sur les écarts budgétaires à la FFT. Plainte contre X déposée par 7 dirigeants du tennis français auprès du parquet national financier pour détournement de biens publics et corruption. Un document de 13 pages que nous nous sommes procurés. Il vise particulièrement 3 hommes, Valentin Jamin.
Cette plainte vise notamment Gilles Moreton, l'actuel président de la FFT. En 2020, il dirigeait la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et il est accusé d'avoir, je cite, « institué une politique de partenariats commerciaux en monnayant les billets pour Roland-Garros soupçonnés de la Fédération, une pratique réglementaire selon lui ». Même chose pour Jean-Luc Barrière, aujourd'hui trésorier de la FFT. Il est suspecté d'avoir détourné 40 places offertes par la Fédé au profit d'une société privée lorsqu'il était président du comité départemental de Paris. Enfin, Hugues Cavalin est concerné par le volet corruption. Ancien trésorier, il aurait essayé de stopper un audit justement sur ce sujet des billets attribués aux ligues avant de soutenir la campagne de Moreton de manière inattendue, puis de devenir son directeur de cabinet après l'élection.
Sous les palmiers, le printemps du tennis français est en revanche un peu moins ombrageux. 3 Français se sont qualifiés cette nuit pour le 3e tour du Masters 1000 de Miami. Grégoire Barrère, Adrian Manarino et Quentin Lys, auteur de sa plus belle performance en carrière avec un succès en 3h18 sur le 18e mondial, Alex de Minaur.
Les infos avec Maxime Gras. Merci Maxime.
Allez, 6h38, bienvenue sur RMC. On est ensemble jusqu'à 9h, 6h38. Bon, on file sur les hippodromes.
La matinale week-end.
Les courses RMC.
Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser avec la Dream Team des courses RMC. Bonjour Frédéric Quittin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors le quintet aujourd'hui, ça se déroule à Auteuil et c'est à 15h15 très précisément.
Et oui, c'est à 15h15 sur l'hippodrome d'Auteuil, donc le plus bel hippodrome d'obstacles. Et c'est une course qui est très difficile à déchiffrer, c'est un handicap. On rappelle la règle des handicaps, les concurrents portent un poids plus ou moins élevé en fonction de leur niveau. Donc le numéro 1 portera le plus de poids, le numéro 14, qui est donc le dernier concurrent de la liste, portera le moins de poids dans cette course, ce qui permet d'équilibrer les chances entre chaque concurrent.
Et quel est votre dernier bruit ?
Le dernier bruit dans cette épreuve, ça sera le numéro 13, le Roi David, un concurrent qui dernièrement a créé la surprise. Il a terminé deuxième de la course de référence sur ce parcours. Il avait plus de 50 contre 1. Aujourd'hui, il sera nettement plus joué, mais il peut confirmer en luttant pour les premières places dans cette course qui, je rappelle, est très ouverte.
On attendait le Roi Charles en ce dimanche. Ce sera le numéro 13, le Roi David sur l'hippodrome d'Auteuil. Votre deuxième choix ?
ça sera l'As Loufast, donc lui qui porte le poids le plus élevé, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau avec plusieurs belles places et logiquement il devrait terminer dans la bonne combinaison du quintet, donc entre la première et la cinquième place de cette épreuve.
Merci Frédéric Kita, tous les pronostics bien sûr à retrouver sur rmc.fr si vous n'avez pas eu le temps de les noter. Frédéric, je sais qu'il y en a un qui vous a écouté attentivement, c'est Christian qui veut nous faire un petit coucou au 32-16 ce matin. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Mathieu, bonjour la matinale, bonjour à tout le monde.
Vous êtes en Gironde, Christian, entraîneur de chevaux. Vous allez miser aujourd'hui sur le quintet ?
Les entraîneurs n'ont pas le droit de miser. Hein.
Ah.
On va être professionnel. Non. Il n'y a que les propriétaires, les LAD, mais les entraîneurs n'ont pas ce statut-là.
Vous suivez ça attentivement, mais de loin, pas avec votre portefeuille.
C'est ça. Quand on est professionnel, on court plutôt nos chevaux que miser.
Et déjà, c'est compréhensible.
Et puis déjà, faut tout préparer, les entraînements, les courses.
Christian, qu'est-ce que vous faites lever de bon matin, là? On est dimanche, c'est le changement d'heure qui vous a perturbé ou vous êtes un lève-tôt?
Tout à l'heure, j'ai écouté le boulanger, c'est vrai qu'il n'y a pas d'heure même dans le milieu du cheval. Hein. Faut se lever,
aussi,
faut
nourrir
les chevaux, il n'y a pas de week-end quand on ne court pas. Bon, aujourd'hui, je me suis levé à 4h, j'ai nourri mon petit effectif de 12 chevaux et j'ai un partant à Agen, en réunion PMU, dans la première. Donc, c'est pour ça que je me suis levé et je prépare maintenant le matériel pour y aller.
Levé aux aurores, Christian, j'allais dire, ça s'entend un peu. Hein. C'est dur, hein. Ça tire, Christian, ce matin. Hein.
Surtout dans le milieu, on fait beaucoup de routes.
Oui.
On peut traverser la France en une journée, donc pour le cheval.
Pour mettre un peu les pendules à l'heure, oui, voilà. 6h40, Christian levé depuis 4h à l'écoute de RMC. Tiens, Mickaël est aussi avec nous depuis la Saône-et-Loire. Bonjour Mickaël.
Bonjour Mickaël.
Vous allez bien?
Ça va et vous, agent de sécurité, vous avez bossé cette nuit?
Non, je suis en repos depuis hier matin à 8h15, du coup hier la journée nuit blanche, couché hier soir à 20h et réveillé ce matin à 4h pour préparer une discussion pour la pêche.
Oh là 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 là, où ça?
Du côté de Guignon, dans la rivière, la Roue.
Rivière?
Ouais, pêcher la carpe.
Ça fait quoi? Ça fait une ou deux semaines hein, que c'est ouvert la pêche là?
Oui, c'est ça, ouais, la truite, ouais. Après, la pêche à la carpe, c'est ouvert toute l'année. Il y a des secteurs pour la nuit où on peut camper, pêcher la nuit.
Et ça se mange?
Non, on pêche en no-kill, en fait. C'est pour le plaisir, faire une petite photo et remise à l'eau.
Oui, c'est vrai, c'est la pêche plaisir.
C'est ça.
Les rivières, en ce moment, Mickaël, de l'eau ou pas d'eau à cause de la sécheresse?
Ouais, c'est irrégulier. Moi, je suis en dessous du barrage de Villeray, donc côté de Rouen, la Loire. Ça, là, à Loire, en fait, un petit peu de pluie, elle monte, après, elle redescend.
Il y a des conséquences sur les poissons? Il y en a moins?
Non, pas spécialement. Après, la pêche est différente, quoi. Les poissons se situent sur les calmes, à contre-courant. Après, au milieu, quand le courant, la rivière coule trop, ça charrie les arbres, ça charrie les branches. Donc, c'est pas pratique.
Mickaël, je sais qu'il faut pas dire quelque chose, mais j'ai envie de le dire quand même.
Allez, Mathieu.
Bonne pêche.
Ça marche.
Il paraît que ça
pourquoi
se dit pas.
Pas le dire,
il paraît que ça
malheur.
Porte malheur aux pêcheurs de dire bonne pêche.
Ouais, c'est... Après...
Je
ouais,
ne connaissais pas cette superstition, hein, pour le
paraît,
coup.
Il paraît.
Bon dimanche, alors.
Profitez bien, Mickaël.
On reste tous bien.
J'espère que je vous aurai pas porté malheur.
Non.
Mickaël, Christian, à l'écoute d'RMC de bon matin. Que faites-vous réveillé de si bonne heure? N'hésitez pas, le 32-16 est ouvert. Un peu plus tôt que d'habitude, peut-être. Mais il est 6h42 quand même. Tiens, la sécheresse, la question du manque d'eau. Il va en être question dans un instant.
Et nous partons à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Un déferlement de violence inacceptable dénoncé par Elisabeth Borne, la première ministre. 3 manifestants et 2 gendarmes en urgence absolue. Comment cette journée a-t-elle été vécue de l'intérieur? Parole de militants anti-bassines dans le reportage de la rédaction. C'est dans une minute et c'est sur RMC.
RMC 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
6h43, vous êtes bien sur RMC. La matinale week-end, merci d'être là. On vous accompagne, on vous informe évidemment. Des images de guérilla rurale et un bilan très lourd. Des dizaines de blessés. On prend la direction des Deux-Sèvres ce matin.
Oui, comme redouté, ce déferlement de violence a eu lieu hier lors des manifestations anti-bassines à Sainte-Soline. 5 blessés hospitalisés, toujours en urgence absolue ce matin. 3 côté manifestants, 2 côté gendarmes.
Des activistes radicaux étaient venus en découdre. Une violence inexcusable pour le ministre de l'Intérieur. La violence des forces de l'ordre est criminelle, répliquent les organisateurs. 4000 grenades ont quand même été tirées.
Et nos reporters, nos envoyés spéciaux RMC ont pu suivre cette journée au plus près. Marion Gauthier, Léna Marjac vous raconte ces scènes de chaos vécues de l'intérieur.
C'est bien, on ne va pas faire des gros embouteillages sur la route pour permettre l'évacuation des blessés.
Des pieds boueux, des traits tirés, une foule nerveuse s'agite autour des tentes d'infirmerie. Pourtant, beaucoup de manifestants évoquent le calme du début de rassemblement, puis le choc.
Et on est content de rentrer en un seul morceau.
Valentin est venu du sud de la France pour s'opposer au projet de bassine. Il n'était pas à l'avant du cortège.
Je ne m'attendais pas à voir des gens transportés par d'autres gens, du sang partout. Les doigts explosés, toutes les deux minutes entendre médic, médic. Je pense qu'on ne réalise pas encore ce qui s'est passé.
Une journée qui est particulièrement traumatisante et violente de part et d'autre.
Mélanie est assise sur un banc, le regard dans le vide.
Que ce soit des forces de l'ordre qui retirent sur des blessés, des systèmes de nassage, et il y a une stratégie militante de pouvoir passer. Et moi, ce que je déplore, c'est le fait d'interdire la manifestation, fait monter une escalade de part et d'autre, qui est instrumentalisée. On termine une journée en étant désespéré, pas écouté. On demande à l'État un moratoire sur ce projet. On ne demande pas un affrontement.
La gendarmerie assure que les assaillants ont fait usage de mortiers d'artifice, de cocktails Molotov. Elle dit avoir riposté avec 4000 grenades et des lanceurs de balles de défense.
On a eu plus de 3000 forces de l'ordre qui étaient là pour protéger un cratère vide, donc pour protéger rien.
S'insurge Adeline du collectif Bassine. Non merci.
Les gens sont très choqués, n'ont jamais vu une telle violence comme ça. Alors ça ne décourage pas. Je pense que ça fait monter encore plus la colère. Des gens nous rejoignent.
Le dispositif policier vu par certains comme une provocation qui explique la violence de quelques militants, plaide Léna, la jeune femme, et dans l'organisation elle a les yeux cernés, l'air désemparé.
C'était inévitable, mais c'est sûr qu'on la déplore et que nous on veut pouvoir organiser des mobilisations où en fait on n'est pas autant sous pression. On se dit pas, oh non, peut-être que j'ai un ami qui va être à l'hôpital demain.
Les protestataires affirment avoir endommagé une pompe et une canalisation de la bassine de Sainte-Soline mise hors d'état de nuire, disent-ils, jusqu'à la prochaine mobilisation.
Marion Gauthier avec Léna Marjac, nos envoyés spéciaux RMC.
Parce que c'est, vous avez 11 propriétaires terriens qui vont siphonner l'ensemble de la nappe phréatique de toute une région pour leur champ de céréales qui vont être exportés en plus. Ça va, c'est même pas pour la France, ça va être exporté. Donc comment déjà on peut autoriser ces méga-bassines à être installées,
oui.
Et comment le gouvernement envoie 3000 gendarmes pour défendre un truc privé. Donc on
peut
parler de président des riches, là on y est à nouveau.
Tony, on comprend bien que vous partagez la conviction, Tony, on comprend bien que vous partagez la conviction et le sentiment de ces militants anti-bassines. Oui. Les agriculteurs qui sont pro-bassines et qui ont installé ces méga-bassines vous répondent que s'il n'y a pas ces méga-bassines, ils ne pourront plus produire. Mais vous faites bien de reposer le débat, Tony, et de dire de quoi il s'agit exactement. Pourquoi ? Parce que ces images ultra-violentes ont totalement effacé le débat. Et c'est bien le problème aussi.
Mais c'est ça. C'était déjà le début du truc, c'était ça. Et puis après, mais de toute façon, depuis 2018, ce gouvernement a donné les clés de la France à sa police, à sa milice, parce qu'il y a les policiers, il y a les miliciens. Là, la barbarie de certains, c'est juste hallucinant. On voit des images, vous avez des reportages, vous avez ce qu'on a entendu sur le.
Après, les ce sont des policiers et des gendarmes qui sont mobilisés, pas des milices.
Comment ?
Ce sont des policiers et gendarmes qui sont mobilisés, pas des milices.
Non. Alors, on les fait venir. Non, mais attendez, je suis désolé. Quand on voit, parce que depuis Sarkozy, les policiers s'appelaient des gardiens de la paix. Depuis Sarkozy, ce sont des forces de l'ordre. Rien que les mots ont un sens déjà. Mais quand vous voyez tout ce qui s'est passé dans les manifestations partout en France, principalement à Paris, moi j'ai vu à Toulouse, mais la barbarie, il n'y a pas d'autre mot, la barbarie.
Donc si je vous suis bien, Tony.
Vous avez des filles qui rentrent dans les. Qui chargent, qui
tabassent
déjà.
Tony, si je vous suis bien.
Attendez, laissez-moi terminer. Qui tabassent. Parce que si c'est pour mettre l'ordre, comme on dit, vous avez quelqu'un qui casse, vous arrivez, vous l'attrapez, s'il se défend, éventuellement vous le maintenez, vous l'embarquez.
Et à votre avis, c'est pas ce qui se passe.
Les gens pour rien.
C'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ce sont les forces de l'ordre qui provoquent la violence.
Non, mais attendez, mais c'est tellement évident. La dernière manifestation sur Toulouse, à 500 mètres de l'arrivée, de la manifestation, il y a eu un barrage de flics, ils ont gazé, ils ont chargé. C'était sur le tracé, les gens marchaient, il n'y avait aucun problème. Ils ne font que ça. Les nains se sont interdites.
Merci, Tony.
De toute façon, c'est pas dur. S'il y a le monde entier condamne la gestion des forces de l'ordre en France et de la gestion des manifestations, le monde entier le condamne. Et il y a que, alors parce que vous avez quand même, 280 personnes à peu près qui sont à l'Assemblée nationale, ils n'arrivent même pas à avoir la majorité, plus Alibaba, Macron et les 40 voleurs, parce qu'ils sont tous mis dans l'examen de son gouvernement. Et vous avez quelques mecs au Sénat qui tiennent ça. Tony. Et vous avez 67 millions de personnes qui sont contre.
Tony, restez bien à l'écoute d'RMC tout à l'heure. Vous aurez la réponse au sujet de ces violences. 8h10, la colonelle Marie-Laure Pesant, porte-parole de la gendarmerie nationale. C'est vrai que cette gendarmerie a été accusée de violences criminelles, y compris par des responsables politiques hier. La réponse sur RMC de la gendarmerie tout à l'heure, 8h10. Merci Tony d'avoir eu le réflexe 32-16. Vous poursuivez bien sûr. Le débat est ouvert. Il est 7h10.
À suivre dans la matinale week-end.
Le prix des loyers est encore et toujours plus cher. Une mauvaise nouvelle, évidemment, pour les locataires, mais aussi pour les propriétaires qui vous louent ces logements.
Et oui, on va voir ça dans le coup de main IMO dans une minute. À tout de suite.
RMC, 6h-9h, la matinale week-end.
Marguerite Dumont, Mathieu Rouault.
Ravi de vous réveiller, d'être avec nous ce matin, la matinale week-end jusqu'à 9h. Allez, dans deux minutes, on va feuilleter une BD avec Peggy Broche dans le bonus RMC.
Mais d'abord l'immobilier.
Le coup de main immobilier.
Chaque samedi, chaque dimanche, votre rendez-vous immobilier sur RMC.
Avec les astuces, les bons plans de Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie.
Bonjour Mathieu, bonjour Marguerite.
Allez, c'est dimanche. Parlons du marché de la location. Des chiffres inquiétants, Marie, pour les locataires, comme pour les propriétaires qui mettent des biens à la location.
Et on commence avec les locataires.
Ouais, concrètement, on est dans une configuration qui ne fait que des perdants. Et oui, les locataires arrivent en bout de chaîne. Les derniers chiffres de l'Observatoire Clameur, c'est le juge de paix hein, sur les évolutions de loyers en France. Eh bien, ces chiffres, ils montrent une hausse des loyers d'environ 7% à l'échelle nationale ces 5 dernières années. Des loyers de plus en plus chers, qui sont aussi la conséquence de la flambée des prix de l'immobilier ces dernières années, en particulier sur certains secteurs. C'est d'ailleurs sur la côte ouest où les prix se sont envolés qu'on constate quelques-unes des plus fortes hausses de loyers. Ceux des studios ont pris près de 12% en seulement un an à Brest. On est autour de 6-7% de hausse aussi à Vannes, Lorient ou Saint-Nazaire.
J'ajoute Royan dans la liste. Oui, croyez-moi.
Pourquoi Royan ?
Oh, bah parce que j'ai des attaches.
Ah ok, c'est bien noté. Des loyers qui explosent donc, Marie, mais moins que les prix à l'achat, et ça, eh bien, c'est pas une bonne nouvelle non plus pour les locataires.
Ben oui, parce que ça casse complètement ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Compte tenu de la cherté des prix à l'achat et du durcissement des conditions d'emprunt, ceux qui auraient pu devenir propriétaires restent locataires. Résultat, le marché se fige. L'Observatoire Clameur montre ainsi un allongement quasi inédit de la durée des baux et toujours en particulier sur la côte atlantique. En Bretagne, les locataires restent en moyenne 1 an et 3 mois de plus qu'il y a 5 ans dans un même logement. À l'ouest, les besoins locatifs y sont devenus à ce point importants que les propriétaires bailleurs n'ont jamais mis aussi peu de temps pour louer un bien. En Bretagne toujours, mais aussi en région Pays de la Loire, on trouve même désormais un locataire 2 à 3 fois plus vite qu'en Île-de-France.
Mais alors ça, c'est parfait pour les propriétaires qui mettent à la location. Vous nous disiez qu'ils étaient aussi perdants dans l'histoire, mais où sont-ils perdants ?
Alors en réalité, ce que je viens de vous dire, c'est la seule bonne nouvelle hein, pour eux, parce que pour le reste, eux non plus, ils s'en sortent pas du tout vainqueurs. Hein. Comme je vous le disais, les loyers, ils ont augmenté en moyenne d'environ 7% ces 5 dernières années. Alors vous allez me dire, c'est beaucoup pour les locataires. Mais pour ceux qui ont investi, ça compense pas l'augmentation des prix à la consommation sur la même période. Pire, ça reste très largement en dessous de la hausse des prix de l'immobilier à l'achat, qui ont fait plus 30% sur 5 ans. Autrement dit, le fameux rendement dont je vous parle régulièrement, il baisse d'année en année. Et c'est sans compter la hausse constante de la fiscalité locale et les coûts à venir des travaux pour les fameuses passoires thermiques.
Eh oui.
Eh oui, il y a donc de moins en moins de Français qui veulent ou peuvent investir. À la clé donc, moins d'offres de biens à louer, alors que la demande, vous l'avez vu, elle explose. On peut clairement parler d'une crise du marché locatif qui frappe les propriétaires investisseurs comme les locataires. Bref, une crise du logement tout court.
Merci beaucoup Marie Cœur de Roi, on sera prévenu. Le coup de main IMO à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 6h56.
Le bonus RMC.
Et c'est avec vous Peggy Broche. Mardi, c'est la journée mondiale contre l'endométriose. Et vous nous recommandez une BD ce matin pour tout comprendre. C'est une BD pour les jeunes, les 15-25 ans. Et ça s'appelle L'endométriose de Clara.
Au lycée ou à la maison, Clara a mal. Rien ne la soulage, sauf lorsqu'elle reste allongée, seule avec sa bouillotte. Elle se sent incomprise et se met en colère à la moindre remarque. Elle rate les cours, se fâche avec sa mère, évite ses meilleurs amis, largue son copain jusqu'à ce qu'elle rencontre les bonnes personnes. Voilà un extrait de la quatrième de couverture de cette BD incroyable, accessible, ludique, pédagogique, qui explique aux jeunes femmes ce qu'est l'endométriose, cette maladie qui touche une femme sur 10 dès le début des règles et peut provoquer d'atroces douleurs. Une maladie encore difficile à diagnostiquer, trop méconnue et même par les professionnels du secteur médical. Alors non, ce n'est pas normal d'avoir mal au point de ne pas pouvoir aller au lycée ou travailler quand on a ses règles. L'histoire de Clara, 17 ans, confrontée à cette maladie, la difficulté du diagnostic, l'impact sur sa vie sociale, familiale, son parcours scolaire a été rédigé à partir de témoignages reçus par l'association Endo France qui lutte contre l'endométriose. L'endométriose de Clara, écrit par Yasmine Kando, présidente d'Endo France, illustrée par Maï Fédégribouilly et préfacée par le parrain de l'association, le rugbyman champion de France et d'Europe Thomas Ramos, dont la compagne est concernée, et la marraine, l'actrice Laetitia Milo. L'endométriose de Clara, c'est l'histoire de nombreuses femmes et de jeunes femmes.
Et merci Peggy d'en parler ce matin. Ce dimanche, c'est important, on en parle de plus en plus dans les médias, mais voilà, pas assez souvent, alors que c'est une maladie qui touche énormément de femmes. Et heureusement, la recherche avance et on est là aussi pour ça, pour sensibiliser tout le monde.
La journée mondiale mardi prochain. Merci Peggy. 6h58, bientôt 7h. Nous serons en direct de Sainte-Soline. On va y retourner dans le journal de 7h au lendemain de cette journée d'ultra-violence. Violence rarement vue en France lors d'une manifestation.
Et au programme aussi, l'homme du week-end, et c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en pleine bataille des retraites. Il fait son coming out, son portrait, c'est à 7h20.
RMC, la matinale week-end.